BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
L'esprit, c'est comme les parapluies, il est plus utile ouvert. Alors on garde l'esprit ouvert au marché, c'est chaque jour et jusqu'à 18h dans BFM Bourse. Bienvenue à tous, il nous y aide en fil rouge, il est là, Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine.
Et c'est rebonjour.
Votre mot du jour?
C'est le mot à la mode, granularité. Voilà. Le secteur de la tech n'y échappe pas, on assiste à une granularité incroyable là en ce moment entre les semi-conducteurs qui font l'objet de prises de profit et d'un mouvement baissier dans le sillage de la déception entre guillemets autour des résultats de Broadcom, STMicro perd 6,16% à 64,27€, et le secteur des logiciels qui renaît, une brusque bouffée d'oxygène là autour de Capgemini par exemple qui prend 7,2% à 104,85€. Granularité donc qui se lie dans les chiffres des indices généraux puisque le CAC 40 grimpe d'1%, 8231 points, alors que le climat est beaucoup plus mitigé du côté de Wall Street, notamment le S&P 500 qui perd 0,2%, c'est le Nasdaq qui pèse le plus en perdant 1%.
On va suivre cette séance bien sûr de l'intérieur avec tous nos experts, revenir sur Broadcom, se préparer à SpaceX. Dans un peu plus d'une semaine, SpaceX doit s'introduire sur les marchés financiers et vous allez voir le poids des ETF dans tout cela. Le premier ETF mondial vient de dépasser les 1000 milliards dollars de capitalisation. C'est la première fois qu'un ETF franchit les 1000 milliards de dollars d'actifs. Pour être beaucoup plus précis, il s'agit de l'ETF Vanguard. C'est dire à quel point, Elon Musk est en train de bien préparer les choses autour de SpaceX, parce que ces ETF, ils vont devoir intégrer SpaceX. Et quand vous avez les ETF, une gestion passive qui a un tel poids, mécaniquement, ça devrait faire progresser le titre dans les premières semaines. On en parlera et puis on reviendra sur Rémy Cointreau, dont les prévisions sont saluées. Figurez-vous, ce titre Rémy Cointreau fait partie des gagnants du jour. Il n'y a pas qu'il y a dans la vie. BFM Bourse au cœur de toutes ces batailles et BFM Business. À l'affût, toutes les actus du jour. Alors d'abord, sachez que le prix moyen des voitures neuves a reculé l'an dernier. Il a reculé de 2%, c'est une première, après une hausse sans précédent de plus de 30% entre 2019 et 2024. Les récentes baisses de prix s'expliquent par le recul des ventes de voitures hybrides rechargeables, notamment chères, très chères, et désormais soumises à la taxe dite malus au poids. Face à la crise du BTP, Legrand se réorganise, c'est une des infos du jour également. Legrand va supprimer 178 postes en France d'ici à 2028. Le fabricant matériel électrique va fermer 4 sites. Il compte investir plus de 80 millions d'euros malgré tout en France, notamment dans les technologies clés. Et puis 1,9 million d'euros, c'est le montant d'amende requise devant la commission des sanctions du gendarme boursier contre la plateforme financière Bourse Direct et sa présidente, en cause des manquements présumés à des obligations de déclaration et de surveillance des transactions. Bourse Direct prend acte de cette réquisition et répond dans un communiqué qu'aucun préjudice client, aucune atteinte aux avoirs des investisseurs ni aucun manquement à ses obligations de loyauté vis-à-vis de sa clientèle n'ont été identifiés dans la procédure. Fin de citation et plus de détails dans 18-19. Edwige Chevrillon, on est à vos côtés, c'est BFM Bourse. Bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Antoine, le CAC 40 domine tout le monde aujourd'hui. C'est ici que ça se passe. Ici, c'est Paris, Antoine. Ici, c'est Paris.
En quelque sorte, plus 0,95%. Effectivement, nous sommes à 8228 points. Et c'est vrai, si on regarde le reste de l'Europe boursière, on a des progressions plus timides du côté de l'Eurostoxx 50 qui gagne 0,37%. Plus 0,57 pour le DAX à Francfort, l'IBEX à Madrid, plus 0,64%, puis surtout Wall Street qui est très très mitigé, mais vraiment très très mitigé, entre un Dow Jones qui gagne 1,52% et un Nasdaq qui perd 1%. Donc oui. Là, vraiment, la granularité, encore une fois. Du côté des valeurs les plus actives du CAC 40, alors, on vous a parlé de la plus forte hausse. Capgemini gagne 7% à 104,65€. Dassault Systèmes n'est pas loin non plus, plus 5,9€ à 20,15€. Euronext derrière, 4,6% de hausse. On est à 141,40€. À la baisse, STMicro, moins 6 à 64,33€. Schneider Electric, plus 1,29€. 279,75€. Et puis à noter Veolia qui recule de 0,9% à 34,76€. Sur le SBF 120, c'est Soitec, sans surprise, qui signe la plus forte baisse à moins 9,4%, 150,05€. Abivax rebondit très largement, 17,5% de hausse à 83,75€. Et puis l'autre vedette du jour, c'est Rémy Cointreau, qui gagne 10,5% à 41,42€.
Et justement, on va le regarder dans les yeux, ce titre Rémy Cointreau, là en image. Pour ceux qui nous suivent à la radio, on est aussi à la télé. Ce titre, il s'envole aujourd'hui, plus 10%. Rémy Cointreau, c'est pas tous les jours. Il est avec nous, Olivier Droyer, pour en parler, mon pensier Bevel en fil rouge. Olivier, plus 10. Pourtant, il n'y a pas d'IA, là, dans les annonces de Rémy Cointreau. Il n'y aura toujours pas d'IA dans notre cognac, à l'avenir. Et pourtant, les prévisions satisfont le marché. Comme quoi, on peut progresser en bourse, même sans IA.
Oui, alors il faut voir d'où on vient. Hein. Malheureusement, c'est un titre qui a été magnifique pendant des années, mais c'est très compliqué depuis quelques temps. Bah, d'abord à cause des tensions de l'Europe géopolitique avec Trump, avec la Chine, qui fait que c'est plus compliqué de vendre du cognac sur ces marchés. Il y a eu la sobriété aussi post-Covid, peut-être structurellement aussi les jeunes qui boivent moins. Donc tout ça a fait un cocktail très négatif, un titre qui a fait un mauvais parcours ces dernières années. Ils ont dû changer complètement leur stratégie, mais c'est une vraie révolution puisque finalement ils sont sortis un peu de la stratégie de valeur. Donc c'est un peu comme si Hermès bradait ses sacs à main. C'est un truc culturellement quand même assez énorme pour une boîte comme ça. Et donc ils se diversifient, ils baissent plutôt un peu les prix. En fait, bon, aujourd'hui, les chiffres, c'est pas que ce soit très brillant, hein. 0,2% de croissance organique, un dividende divisé par deux, bon, le BPA est 5-6% au-dessus, mais enfin, et même les perspectives de l'année en cours font pas rêver. Par contre, ils ont quand même mentionné 100 millions, entre guillemets, de création de valeur. Donc, ça veut dire des économies. Le résultat opérationnel est à 172, donc évidemment, c'est quand même important d'ici 2029. Maintenant, ce qui est pas encore très, très clair, c'est ce qui va être vraiment conservé dans les comptes de résultats ou ce qui va être réinvesti, voire rendu aux consommateurs dans le cas d'une stratégie beaucoup moins de valeur et en s'adaptant beaucoup plus au prix auquel le consommateur est prêt à payer. Bon, ça peut marcher. On va dire que c'est beaucoup moins excitant pour l'investisseur qu'un Rémy Cointreau des très belles années allant vers voilà une stratégie de valeur crédible dans un cycle qu'il supporte. Ça, c'est clair que ce serait de loin ce qu'il y a de mieux pour l'investisseur. Mais partant d'où on vient, bah c'est quand même pas si mal et c'est ce que salue le marché aujourd'hui.
Voilà, ce titre Rémy Cointreau fait partie des hausses notables, plus 10% aujourd'hui sur le marché parisien et c'est rare de le voir se détacher à ce point. Rémy Cointreau, surtout à la hausse. À la baisse, ça arrive, mais à la hausse, c'est un peu plus rare. ASML, c'est une semaine historique pour ASML puisqu'ASML cette semaine atteint une capitalisation qu'aucune autre valeur en Europe n'avait atteint. Ils ont dépassé la capi de 2024 de Novo Nordisk ASML.
Oui, alors bon, évidemment aujourd'hui du coup c'est moins bien que Broadcom, oui. Comme tous les semis, mais c'est logique. Hein. Enfin, à partir du moment où on est dans un marché où vraiment ce qui tire c'est l'infrastructure IA, la société européenne qui est en situation de monopole, quasi-monopole sur son marché avec une vraie technologie différenciante et qui est incontournable dans l'infrastructure IA, c'est ASML. Donc c'est complètement logique. Il y a quelques autres boîtes dans ces pays-là, des BE semi-conducteurs ou des ASMI qui sont dans les mêmes dynamiques, qui sont pas complètement monopolistiques, mais qui font aussi des plus hauts. Donc voilà, il y a pas beaucoup de sociétés européennes qui ont cette capacité-là dans l'écosystème. Donc c'est logique de la retrouver en tête des capitalisations en Europe.
Cette valeur ASML, vous l'aimez, vous avez envie de la renforcer, pourquoi pas
Très belle société de long terme. Je ne
me sens pas très excité, je vous le dis franchement.
Non, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on a eu un parcours incroyable de toute cette partie semi-conducteur depuis quelques mois. Et que, bon, voilà, il faut quand même... Enfin, aujourd'hui, ce que je disais avant, c'est qu'aujourd'hui, l'exposition au secteur des investisseurs atteint aussi des records historiques. Et donc, effectivement, parfois, on a des journées comme aujourd'hui avec des forces de rappel. Donc, je pense qu'il faut globalement... il faut évidemment être investi dans ces thèmes qui tirent le marché, sinon on ne peut pas faire de performance. Mais il faut quand même être équilibré aussi, avoir des optionnalités dans quelques peut-être d'autres secteurs un peu délaissés, parce que voilà, si on met tous ces œufs dans le même panier, quand on arrive avec des ETF en plus à gonfler tous les flux, à tous les emmener au même endroit, attention parfois au dégonflement. Quoi.
Comme en voile, quoi. C'est pas la peine de tous se mettre du même côté du bateau, c'est pas comme ça qu'on va avancer forcément plus vite. Alors le CAC 40 est en hausse, oui, c'est une super séance aujourd'hui à la Bourse de Paris, plus 1%, merci les logiciels qui après avoir souffert remontent un peu aujourd'hui, Dassault Systèmes gagne 6%. Et alors cette question d'un auditeur, on avait promis de répondre, donc on va le faire tout de suite. Le chat en bourse, c'est son pseudo sur le Félix BFM Bourse. Il nous a écrit et il nous reproche de ne pas avoir parlé de Médian alors qu'il nous avait interrogé hier sur Médian, c'est vrai. On aurait dû lui répondre hier, mais il y avait tellement d'actu aussi hier. Alors voilà, on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Médian, vous la suivez cette valeur, Olivier?
Oui, alors ils ont fait une annonce de capital hein, hier de 50 millions qu'ils ont bouclé pour finalement commercialiser aux États-Unis un dispositif IA dans le diagnostic. Alors le diagnostic, quand même, on sait que l'IA, ça marche. Hein, ça marche peut-être malheureusement, mais ça marche mieux que l'œil humain. Il y a des nuances que l'œil humain ne peut pas détecter. Si un radiologue passe une demi-heure sur chaque cliché, il va arriver à peu près au même résultat que l'IA. Mais sinon, les technologies de Médian font mieux, en fait, en analysant et en détectant les cancers précoces. Ils ont une capacité de détecter à 93% de spécificité les cancers du poumon en stade précoce. Donc, ils ont eu une autorisation de la FDA aux États-Unis de commercialiser. Ils ont fait un partenariat avec un acteur américain qui s'appelle Tempus. Donc, ils ont levé cet argent pour pouvoir se lancer en cette commercialisation. sur un marché éligible à peu près aujourd'hui de 9 millions de personnes aux États-Unis qui ont le droit de faire des tests annuels de cancer du poumon. Donc un marché intéressant, ils sont pas complètement tout seuls, mais marché intéressant. Et puis voilà, ils attendent l'approbation européenne dans les mois à venir, donc ils avaient besoin de lever de l'argent pour cette aventure.
Ouais, ce titre médian, donc on a plein de questions d'auditeurs. Tiens, Mohamed nous demande si les acteurs de la bière en bourse, c'est une bonne idée d'investissement avant le mondial de foot. Il pense à AB InBev et il vous demande si vous avez d'autres idées. Il faut raisonner comme ça, regarder les événements sportifs avant de choisir d'investir.
C'est quelque chose qui, ça fait partie des réflexes, mais ça marche pas très bien parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est souvent, enfin, à la limite, si vous le faites un an avant, à condition qu'il n'y ait pas trop de bruit, mais globalement, c'est des choses qui sont assez bien. Ça marche de moins en moins, en fait, en bourse, ces trucs-là. Après, la bière a beaucoup, beaucoup souffert l'année dernière. Il y a une année très difficile en bourse. Les valorisations sont pas très élevées. Il semble que ça aille un peu mieux, mais vouloir jouer la Coupe du Monde, c'est malheureusement.
Elle est déjà jouée en bourse.
Ouais, elle est souvent déjà jouée en bourse.
On connaît déjà les vainqueurs en bourse, en fait. Oui, mais c'est ça, les valeurs qui. Oui, ça y est. Autre question d'auditeur. Est-ce que c'est une question d'auditeur? Non, c'est pas une question d'auditeur. C'est un CAC 40 en hausse en ce moment d'un peu plus d'1%, mais c'est une actu très forte. Vivendi, voilà. Je me demandais où est-ce que je voulais en venir, mais c'est bien Vivendi. Ce titre, il est en baisse, là. Je le regardais. Net repli même, alors que Pershing Square, manifestement, vend 600 millions de dollars de Vivendi, c'est ça?
Enfin, d'Universal
Music, pardon. Ce qui pèse sur Vivendi, bien sûr, en bourse.
Oui, alors Square, c'est Bill Ackman, qui est un investisseur américain extrêmement réputé. Il sort en perte quand même, il était entré en 2021, donc j'ai pas la perte exacte, mais il sort en perte. Il a voulu faire des offres qui n'ont pas marché. Bon, le problème, c'est que c'est un investisseur réputé, mais je pense qu'avec Vincent Bolloré, il a trouvé à qui parler, donc il se rend compte que finalement, c'est pas la peine d'insister, quoi.
Oui. C'est breton, hein. Il est face à un breton là quand même. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Olivier Droyer avec nous aujourd'hui pour Montpensier Arbevel. Le CAC 40 gagne 1,1%. Les autres places européennes en hausse également, mais moindres, plus limitées, plus modérées. Cette hausse, l'Eurostock 50 gagne 0,6. Puis à Wall Street, vous allez voir qu'on va se retourner dans le vert, tiens. Le S&P 500, qui était en baisse de 0,5-0,6%, est stable désormais. Le Nasdaq, lui, divise quasiment par deux ses pertes. On perd plus que 0,6% sur le Nasdaq. Le potentiel des marchés américains. John Plassard nous en parlait tout à l'heure. C'était dans USA Today, à retrouver en replay, bien sûr.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et justement, cette économie américaine, on va en parler avec Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA. Il nous rejoint. Bonjour Gilles. Ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Bon, on a des inscriptions hebdomadaires au chômage en petite hausse aujourd'hui, mais là n'est pas le plus important. En fait, on a des indicateurs un peu plus larges sur l'emploi qui sont meilleurs qu'attendus depuis le début de la semaine. On sent une forme de résilience du marché de l'emploi. On verra demain le rapport mensuel. On a les PMI des services aussi aux États-Unis qui ressortent au-dessus des attentes au mois de mai. Est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on est tous à nouveau surpris de la résilience américaine en ce moment?
C'est vrai qu'on a une situation du marché de l'emploi qui a l'air de se stabiliser alors qu'on avait des indicateurs jusqu'à il y a à peu près 2 mois qui étaient quand même un peu inquiétants. Pourquoi ? Parce qu'on a un redémarrage des offres d'emploi, on a eu aussi une baisse des licenciements, donc ça c'est évidemment un bon signe. On verra dans quelle mesure ça se reflète dans les indicateurs payroll demain, sachant que les payrolls, je répète à chaque fois, mais c'est une série statistique épouvantable, fortement révisé, incroyablement volatile. Mais c'est vrai que la plupart des indicateurs dont nous disposons nous disent que les choses se stabilisent plutôt du côté de l'emploi. Alors je ne sais pas si on peut parler de résilience générale aux États-Unis, parce que j'ai quand même l'impression qu'on a toujours cette dichotomie entre, d'une part, un secteur tech qui va extrêmement bien, même s'il ne produit pas d'emploi, et une économie traditionnelle américaine qui vivote un peu, avec des taux de croissance quand même beaucoup plus faibles. Si on s'intéresse, par exemple, au PIB du premier trimestre, qui avait été révisé à la baisse, avec 1,6% simplement de croissance annualisée, ce qui n'est pas génial pour les standards américains, eh bien, on avait une contribution à la croissance de la demande intérieure qui provenait à 40% du seul secteur de la tech. Donc voilà, une résilience d'ensemble, mais très déséquilibrée entre les secteurs.
Bah, Gilles, c'est le principal problème finalement de cette structure de la croissance américaine. De plus en plus, elle repose sur l'IA, donc sur le CAPEX, sur la possibilité pour les entreprises d'investir des dizaines de milliards de dollars. Est-ce que c'est bien sain? Est-ce que ça vous inspire quand même quelque inquiétude, quand même, ce phénomène?
C'est vrai qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, par exemple une innovation technologique qui nous dirait qu'en fait on peut réaliser à peu près la même capacité de calcul avec peut-être un peu moins d'investissement dans des centres de données, donc on est un peu à la merci d'un accident technologique de ce type-là, alors qu'on n'a pas vraiment de ressort particulièrement impressionnant dans voilà ce qu'on peut appeler l'économie traditionnelle américaine. Donc ça, c'est une source de vulnérabilité. Et au sein même du secteur tech, même s'il n'y a pas de révision dramatique technologique, on a quand même des signes internes qui sont un peu problématiques. On a en particulier une augmentation assez forte du prix des inputs informatiques aux États-Unis. Ça, c'est très surprenant, c'est très rare. C'est-à-dire qu'on a fonctionné pendant 3 décennies, depuis qu'en fait on le mesure bien, avec une baisse du prix du matériel informatique aux États-Unis. On a perdu à peu près 30% en 10 ans avant en fait le Covid. C'est quand même beaucoup, et ça, c'était ça a permis en fait de maintenir un effort d'investissement assez important. Et depuis qu'on est sorti du Covid, on a une réaccélération assez forte du prix des produits informatiques. On le voit aussi dans les prix d'export sud-coréens, dans les prix d'export taïwanais. Donc l'ampleur en fait de l'investissement aujourd'hui nécessaire commence à se traduire par des tensions de coûts importantes qui vont bien évidemment venir rendre encore plus compliqué le financement de la poursuite de cet effort d'investissement. Donc ça, c'est la question du prix, elle est vraiment maintenant à regarder de près.
Et puisque vous évoquez le prix, on peut aussi évoquer les prix, l'inflation ici en Europe parallèlement. Et là, on revient de ce côté-ci de l'Atlantique. Gilles, dans une semaine pile, on saura si la BCE relève ses taux ou pas au mois de juin. C'est dans une semaine qu'elle annoncera sa décision. On sera ensemble d'ailleurs dans une semaine pour commenter sa décision. Vous la voyez venir, vous, la hausse de taux, la première depuis 2023 de la BCE?
Ouais, j'ai l'impression que si la BCE devait sursoir à la hausse de taux, quelque part, je pense qu'on le saurait déjà. On aura peut-être des dernières indications avant la période de pause dans la communication de la BCE, mais j'ai l'impression qu'elle est effectivement à peu près, et pas certaine, rien n'est jamais certain, mais en fait très vraisemblable. La question pour moi la semaine prochaine, c'est plutôt les suites. C'est-à-dire que la BCE souhaite faire une hausse de taux, moi j'appellerais ça une hausse de taux d'avertissement, hein, pour essayer d'envoyer à tout le monde le message que la BCE ne laissera pas l'inflation déraper, qu'elle est prête à y répondre. Soit, et 25 points de base, ça ne change pas grand-chose à la situation. Mais je ne pense pas, ou je ne souhaite pas, que la BCE la semaine prochaine soit nécessairement très claire sur ce qu'elle souhaite faire par la suite. D'abord parce qu'il y a une incertitude de fond, à savoir qu'on ne sait pas quand le détroit d'Hormuz se réouvre, et aussi parce que pour l'instant, on n'a pas de signe avéré très net d'effet de transmission important du prix de l'énergie vers les autres secteurs de l'économie. Et tant qu'on n'a pas ces démonstrations-là, moi je ne pense pas que la BCE devrait nécessairement se mettre dans la position d'une série de augmentations de taux. Donc oui, probablement une hausse de taux la semaine prochaine, mais je ne pense pas et je ne souhaite pas que la BCE soit très déserte sur la suite.
Mais même si Isabelle Schnabel, elle, dit que même si le détroit d'Hormuz rouvrait, on aurait une pression sur les prix qui, elle, durerait.
Mais ça me paraît assez évident. On a une partie des hausses de prix qui sont déjà dans les tuyaux, ne serait-ce que les prix alimentaires, parce que la saison des semis, c'est maintenant. Et donc, même s'il y avait augmentation de l'offre de fertilisants, quelque part, c'est déjà trop tard, en tout cas dans l'hémisphère nord. Mmh. On a aussi tout ce qui se passe dans les lignes d'approvisionnement sur, par exemple, l'aluminium. Ça, les prix continueront à avoir un impact dans les mois qui viennent. Ça, c'est évident. Mais la question de fond, c'est est-ce qu'il y a ensuite transmission de la hausse des prix au salaire? Et ça, on ne le saura pas tout de suite.
Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA, merci beaucoup Gilles. Dans une semaine, on aura la réponse donc à la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. On sera ensemble pour la commenter, bien sûr, émission spéciale. Aude Kersulek aussi sera notre envoyé spécial à Francfort la semaine prochaine à l'occasion de cette réunion de BCE très très attendue. Le CAC 40 gagne en ce moment 1%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
La Chine est-elle en train de se faire distancer sur l'intelligence artificielle quand on voit les montants faramineux annoncés aux États-Unis? Encore aujourd'hui, Alphabet finalement qui lève non pas 80 milliards mais 85 milliards de dollars supplémentaires. On va faire l'état des lieux avec Mathieu Laville-Lunière. Il nous rejoint, analyste action pour Silex. Bonjour Mathieu.
Bienvenue. Bonjour messieurs.
L'état des lieux de l'intelligence artificielle entre Américains et Chinois. D'abord la hausse des valeurs tech, même si aujourd'hui on est sur une pause, et notamment les semi-conducteurs. Est-ce que ce mouvement vous semble exagéré?
Ben non, nous sommes dans le camp des constructifs sur cette partie-là. On voit un cycle d'investissement dans l'intelligence artificielle qui se poursuit, hein, notamment dans les data centers. On voit aussi une capacité de la part d'acteurs comme Anthropic à monétiser cette puissance de calcul. Désormais, on rentre dans l'ère de cette monétisation de l'IA, ce qui est assez prometteur, on va dire, sur la poursuite de ce cycle. Donc nous, on voit en fait principalement que les acteurs impliqués au cœur de l'intelligence artificielle, finalement, voient leur perspective financière transformée, parfois de manière spectaculaire. Un petit peu à l'image de ce qui est arrivé à Nvidia, par exemple, hein, qui était un acteur finalement des cartes graphiques, qui est devenu un géant mondial. Il y a un certain nombre d'acteurs dans cette chaîne de valeur, spécialement dans les semi-conducteurs, qui voient une transformation de leur perspective financière. La bourse le valorise, parfois ça va vite, parfois ça semble un petit peu spéculatif ou irrationnel, mais c'est principalement lié aux fondamentaux qui s'améliorent, à notre sens.
Chine, États-Unis, quand on voit ces incroyables montants annoncés d'investissement aux États-Unis, puis la hausse surtout de la tech américaine en bourse, et puis en face, la Chine, on a vu DeepSeek annoncer une levée de fonds de combien? 7 milliards, 7 petits milliards de dollars. C'est rien du tout. Est-ce qu'on se dit que la Chine est en train de la perdre la bataille ?
Alors, à notre sens, il y a beaucoup d'avance de la part de l'écosystème américain, même si les Chinois font énormément d'efforts pour être compétitifs dans cette course. Finalement, l'écosystème américain a l'avantage d'être un écosystème international, presque mondial, puisque les Américains vont solliciter l'expertise des Taïwanais, par exemple, dans la fabrication des puces, l'expertise sud-coréenne dans la mémoire, beaucoup d'acteurs très avancés dans l'électronique, au Japon, ASML, aux Pays-Bas, dont vous parliez à l'instant. Et puis, si on zoome, ASML lui-même, c'est un acteur de très très haute technologie qui a des fournisseurs un peu partout en Europe. En fait, l'écosystème américain, en fait, il va chercher des savoir-faire, des technologies un petit peu partout, dans le monde occidental, chez ses alliés, on va dire, au sens large. Alors qu'on a face à lui un écosystème chinois qui est plus un écosystème national. Ils essaient de refaire un peu toutes les briques de la chaîne de valeur avec du retard parfois assez important sur certains segments.
Est-ce que cette avancée technologique est vraiment le seul enjeu de cette course de vitesse entre États-Unis et Chine ?
Alors non, vous faites bien de le pointer du doigt. Il y a un autre facteur qui, à notre sens, est extrêmement important, c'est finalement la capacité de financement des Américains. C'est ce qui fait un peu débat, finalement, ces temps-ci. Les entreprises de tech américaines sont extrêmement riches, elles ont des capacités d'investissement qui sont très fortes. Et puis les marchés financiers américains, qui sont critiqués finalement pour des grandes introductions en bourse, financent aussi finalement un cycle d'investissement qui est énorme. Cette année, si on prend les seuls... Amazon, Microsoft, Google et Meta, c'est 650 milliards d'investissements dans les data centers. Ça, c'est sans équivalent dans le monde, y compris quand on regarde les Chinois. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui se passe actuellement dans l'intelligence artificielle, c'est que cette puissance de calcul, elle permet d'améliorer les technologies, d'améliorer les outils. Un acteur comme Anthropic, finalement, se repose sur cette puissance de calcul américaine qui est, encore une fois, sans commune mesure. Et c'est ça qui permet aux Américains d'avoir, finalement, les meilleurs outils aujourd'hui.
Mais pourquoi... La Chine n'aurait pas son Anthropic. Ils ont bien eu leur DeepSeek, qui a mis un sacré chantier sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc pourquoi pas ?
Alors DeepSeek a posé beaucoup de questions, notamment sur le plan boursier. On a vu quand même qu'il a été assez rapidement redépassé par les acteurs américains de l'intelligence artificielle. En fait, fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est à quoi sert la puissance de calcul. Je pense là, il faut rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Dans les premières années de l'intelligence artificielle, la puissance de calcul sert à entraîner les modèles. C'est assez long, ça nécessite beaucoup de données, beaucoup de réflexion, si on peut dire. Aujourd'hui, si on continue de construire autant de data centers aux États-Unis, c'est pas pour entraîner de nouveaux modèles, en tout cas pas principalement, c'est pour ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence, c'est quoi ? C'est un terme un peu technique, mais qui dit, en fait, le travail que fait le modèle pour générer la réponse à votre requête, à votre question. Si on le prend de manière concrète, il y a 2 ans, si vous demandiez à ChatGPT, finalement, une question, si vous lui posiez une question sur une information trop récente, il savait pas vous répondre. Si elle datait d'après son entraînement, elle n'existait pas dans son esprit, si on peut dire. Aujourd'hui, on voit que les outils sont capables d'aller chercher sur Internet, ils sont capables de lire des documents, ils sont capables de garder en mémoire vos questions pour comprendre où vous voulez en venir, et c'est ça qui les rend pertinents, en fait. Ça nécessite énormément de puissance de calcul. Encore une fois, c'est ça qui fait le succès d'un Anthropic. Et donc, la pertinence de ces outils, leur capacité à créer de la valeur, elle s'assoit sur la puissance de calcul américaine. C'est ce qui explique l'ampleur de ces capex dans les data centers, et c'est ce qui fait, encore une fois, la domination américaine.
Oui. Et ça passe par l'argent. Il faut de l'argent pour effectivement parvenir à ces nouvelles IA et pas seulement entraîner de nouveaux modèles, mais effectivement faire de l'inférence, comme vous venez de le dire. Et cet argent, les Chinois en ont ? Ils ont de l'argent ou ils en manquent ?
Alors, il manque pas exactement d'argent à proprement parler. En fait, pour le coup, les facteurs limitants dans l'IA aux États-Unis et en Chine sont un petit peu opposés. Ce qui peut limiter finalement l'expansion de l'intelligence artificielle aux États-Unis, c'est un petit peu les infrastructures énergétiques. Ils ont un petit peu de retard dans le fait de développer ces infrastructures par rapport aux besoins qui explosent dans l'IA. Alors que les Chinois, de ce côté-là, ont une très grande capacité de production énergétique, mettant en fonctionnement des nouvelles centrales.
Il y a plus de 30 réacteurs nucléaires en construction en ce moment même en Chine. 30.
Exactement. Ils ont bien mieux anticipé sur cette question-là. En revanche, ce que les Américains ont, finalement, c'est la capacité à s'approvisionner en toutes les technologies de puces les plus avancées dans le monde et dans des quantités illimitées, dans des quantités en tout cas très importantes. Ce qui leur permet, encore une fois, de mettre en place cette puissance de calcul. Les Chinois, pour plusieurs raisons, n'ont pas accès à ces puces, ni les plus avancées, ni en nombre suffisant. Ça tient à deux facteurs. Un facteur externe, qui est les sanctions américaines. Sanctions américaines sur les puces les plus avancées, sanctions américaines sur les équipements de production des puces, très important également. Et puis, le deuxième facteur, c'est son écosystème interne qui, comme on l'a dit, est en retard sur l'écosystème américain et donc qui ne permet pas finalement à la Chine de se fournir en suffisamment de puces et en des puces suffisamment avancées pour être au niveau des Américains.
Bon, au jour d'aujourd'hui, quand on voit la tech chinoise qui est valorisée bien moins cher que la tech américaine qui a rayonné, cartonné, explosé à la hausse récemment, on investit comment dans la tech ?
Alors, à notre sens, la thématique de l'IA et de l'IA plutôt au sens américain conserve du potentiel. Okay. C'est vraiment un secteur de croissance excessivement important et vraiment le facteur essentiel, c'est ce que nous démontre Anthropic. C'est cette capacité finalement à monétiser cette puissance de calcul dont on a parlé qui fait qu'on comprend très bien les interrogations sur la rentabilisation de ces infrastructures. Mais pour nous, Anthropic est vraiment en train de donner la réponse. Donc, l'écosystème américain a vocation pour nous à dominer globalement à l'échelle mondiale l'intelligence artificielle. Ça lui offre des perspectives de croissance encore très importantes. Du côté des Chinois, il peut y avoir des opportunités également dans la tech chinoise, mais à notre sens, il y a plus de retard et ce sera plus un écosystème qui va travailler pour son marché intérieur.
Mathieu Lavie-Lunière avec nous, analyste action pour Silex sur BFM Business. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.
Merci messieurs.
Dans un instant, la famille BFM Bourse va se réunir. On accueillera Sabrina Salghi. Le CAC gagne 0,9% alors qu'à Wall Street, on se retourne légèrement dans le vert. Limite. Le S&P 500 en tout cas a effacé toutes ses pertes. On n'est pas encore complètement dans le vert. On va suivre ça. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et Sabrina Salghi, qui nous rejoint pour la famille BFM Bourse, le seul endroit où vous choisissez vous aussi votre famille. Bienvenue Sabrina.
Et bienvenue Guillaume.
Vous avez failli dire bienvenue.
Bonjour.
Ah, c'est pour ça, voilà. J'ai bien senti qu'il y avait un petit bfmbourse.com. Vous nous accompagnez, plein d'articles d'ailleurs très intéressants à suivre aujourd'hui. Il est là en fil rouge aussi, Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine.
Oui, rebonjour.
Et bonjour Antoine.
On est pas mal à l'instant. Alors d'abord, le CAC 40 est en hausse, plus 0,8. Et à l'instant, Wall Street se retourne aussi légèrement à plus 0,01%. Le S&P 500, il avait ouvert dans le rouge. Finalement, il attend toute petite hausse symbolique.
Bon, déjà, sur la partie, on va dire, européenne, bon, c'est le cessez-le-feu entre Israël et le Liban qui redonne un peu de tonus au CAC 40, qui sort donc de deux séances de baisse, donc ça redonne un peu de tonus et de d'allant à notre cher CAC 40. Bon, du côté par contre des semi-conducteurs, c'est pas franchement, ils sont pas forcément à la fête avec non. Les perspectives décevantes de Broadcom qui jettent un peu les craintes sur.
Ouais, tu parles.
Oui.
Broadcom, c'est énorme.
Oui, c'est
leur
énorme.
Leur publication est énorme. Leurs prévisions sont absolument stratosphériques.
Mais elles sont décevantes. Ouais, et le marché ne retient que ça.
Mais les marchés, ils veulent halluciner. Ils veulent halluciner tout
mais
le temps.
Mais c'est ça. Maintenant, ils veulent mettre les lunettes roses. Maintenant, on en est là avec Broadcom. Et donc, ça provoque quoi? Une baisse des groupes de semi-conducteurs. On a par exemple les STMicro qui perd un peu plus de 5% et Soitec 6%, même 8%.
Oui. Et Broadcom à Wall Street, Antoine, on l'a su aussi, bien sûr.
Moins 14, je crois, non?
Oui, ouais. Moins 14,71%.
Ah, je l'avais pas le 71.
Ouais. Non, mais ce qui est fabuleux, c'est que effectivement moins 14. Et puis, du coup, ça entraîne par le fond l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, même en Europe. STMicro, moins 4,2%. On a Soitec, moins 8,7%. Mais ce qui est fantastique, c'est c'est le mot valise à la mode, mais c'est cette espèce de granularité qui est en train de s'instiller dans la high-tech côté. C'est-à-dire qu'on n'achète plus du Nasdaq, on achète... Non. On achète et on vend par phase un petit peu opposée les semi-conducteurs et les sociétés de logiciels parce que c'est elles qui effectuent les meilleures performances aujourd'hui. Capgemini, plus 5,8%, plus 5,3% pour Dassault Systèmes. Ça permet au CAC 40 de largement surperformer l'Eurostock 50 d'ailleurs. Ça, les logiciels. Et puis, pas oublier le luxe. Discrètement, LVMH gagne 2%. Et c'était les meilleures performances du matin, d'ailleurs, ça faisait longtemps. 470,40 € pour LVMH.
Effectivement. Alors, on suit toujours le secteur financier quand même et le marché du crédit privé, parce que les investisseurs, on apprend ça aujourd'hui, tentent de retirer davantage d'argent encore du plus grand fonds de crédit privé au monde. On apprend qu'au deuxième trimestre, les investisseurs de ce fonds Blackstone ont demandé à racheter 10% de leur part contre environ 8% au premier trimestre. Donc, ça s'est encore aggravé au deuxième trimestre, ces demandes de retrait de ce principal fonds mondial de crédit privé. Résultat, Blackstone réagit et va plafonner les rachats de ce fonds de 79 milliards de dollars, quand même ce fonds à 5%. Voilà, on est toujours un peu dans cette ambiance malgré tout sur le segment financier. Romain Daubry nous rejoint pour Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Les forces en présence, vous les sentez comment aujourd'hui ?
Un petit peu de mieux, effectivement. Encore une fois, sur l'indice parisien, on n'a toujours pas d'intérêt fort sur les marchés futurs. Une grosse complaisance en termes de couverture. Et c'est effectivement une balance qui se forme un petit peu, puisque du mieux en Europe et des marchés américains qui sont un petit peu plus fébriles, on les voit un petit peu topiche depuis quelques séances pour l'instant. Donc rien de méchant à Wall Street, mais on pourrait consolider un peu et du mieux sur l'indice parisien qui n'arrive pas encore à réactiver sa tendance haussière et qui vient de buter contre cette grosse résistance à 8259 qui est le plafond de verre maintenant.
Justement, les seuils techniques, graphiques qu'il faut suivre pour la suite, quels sont-ils ?
Alors, pour l'indice CAC 40 au plus court, c'est 8082, le support est le premier niveau d'alerte. La résistance, c'est 8259 points. C'est un niveau qu'on surveille depuis longtemps, autour duquel on oscille, mais contre lequel on bute systématiquement. Ça permettrait, si on arrive à le déborder, eh bien d'aller réactiver une dynamique haussière qui pourrait être intéressante en direction de 8357 dans un premier temps, et puis surtout 8624, les tops de l'indice CAC 40. Sur le S&P, pour reprendre un point de repère sur l'indice américain, on s'inscrit peut-être on s'inscrit dans une structure en biseau d'épuisement. C'est une structure qui est donc un triangle en pointe qui pointe vers le haut, des cotations qui se resserrent et on a effectivement eu un échec contre la borne haute depuis 48 heures et on vient de tester la borne basse de cette structure aux alentours des 7500 points. Le risque, si on rompt les 7500 points et surtout 7455 sur le S&P, c'est d'aller chercher le pied de ce biseau pour un mouvement de baisse de l'ordre de 5%. Donc une consolidation de 5 à 6% sur le S&P ou sur le Nasdaq qui paraissent plausibles et légitimes après 9 semaines de hausse d'affilée et une hausse de plus de 30% pour le Nasdaq depuis ses points bas du mois de mars.
Romain, je regardais le graphique de Rémi Cointreau. Il y a 3 ans, au plus haut, il y a même 5 ans, au plus haut, le titre valait 217,20 €. Aujourd'hui, il arrive à peine à 46. Mais avec un beau rebond depuis le 1er janvier, plus 12,3%. Et on voit que plusieurs fois où le titre a tenté de déborder des résistances assez importantes, est-ce que cette fois, il est en train d'y arriver avec le rebond spectaculaire d'aujourd'hui ?
On n'y est pas encore, hein. Effectivement, on a cessé de baisser après les sommets que vous indiquiez. On a cessé de baisser depuis le mois de décembre dernier sur Rémi Cointreau dans une zone de prix qui est située entre 36,78 et 42,28. Si on arrivait à déborder ce niveau qu'on a testé ce matin, sur plusieurs clôtures, hein, plusieurs clôtures journalières ou au moins une clôture hebdomadaire, et on sortirait de cette zone de congestion pour réactiver un mouvement haussier et déborder une oblique baissière de long terme maintenant et donc réactiver quelque chose. On n'a pas de figure de retournement encore, mais du mieux, une réaction qui est quand même assez significative aujourd'hui avec du volume. Il va falloir voir comment on clôture, comment on digère cette nouvelle de moins mauvais dans les publications qu'attendues avec ce plan de relance qui a l'air de plutôt bien satisfaire les opérateurs pour l'instant. Donc si on passe 42,28, c'est 47,82 la première cible et ce serait du mieux pour réactiver quelque chose sur le long terme.
Effectivement, Rémi Cointreau, star du jour, le titre Sabrina. Rémi Cointreau, vous y consacrez un article, bfmbourse.com, gagne 11,5%. Les résultats annuels en eux-mêmes sont ternes, en fait.
Bien, oui, ils sont pas franchement bien, mais en tout cas, on va dire que les revenus du groupe, ils se sont stabilisés. Ça, c'est déjà le premier point, mais ils restent en dessous du milliard d'euros. Le résultat opérationnel et le bénéfice ont nettement reculé. Et le groupe a aussi divisé par deux son dividende par rapport au précédent exercice. Bon, bah, pour l'exercice en cours, Rémi Cointreau contre nous avec la croissance de son chiffre d'affaires en données comparables et aussi augmenter légèrement sa marge opérationnelle courante.
Voilà, mais les résultats n'ont rien de ouf, comme on dit chez les jeunes de moins de 60 ans.
Voilà, oui.
Du coup, qu'accueille bien le marché, là, dans cette publication, dans ces annonces, qu'est-ce que le marché applaudit au point de faire progresser le titre de 11% cet après-midi ?
Ah oui, c'est vrai qu'il y a de l'effervescence sur le titre Rémi Cointreau. Vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez d'effervescence, Sabrina, alors que Rémi Cointreau, bah, c'est du cognac. Et bah, vous savez quoi, ils ont une marque de champagne.
Oh, non, mais attendez, effervescence, cognac, mais il n'y a pas d'effervescence dans le cognac.
Oui, mais.
Sauf en bourse.
Sauf en bourse, voilà. Mais Rémi Cointreau a une marque tellement, la maison tellement hein, pour le champagne. Et oui, il fallait le savoir. Et pour un élément bien précis, bah, c'est le plan RC Forward. Alors pourquoi c'est un plan triennal hein, qui a été annoncé déjà en avril. Et là, maintenant, la société donne quelques petits détails hein, ce qui lui permettrait d'ajouter 100 millions d'euros de résultats opérationnels courants. Alors cela va passer très rapidement, de l'innovation à la création d'une nouvelle entité dédiée au marché émergent, qui est quand même un réservoir de croissance identifié par Rémy Cointreau. Et le groupe va donner beaucoup plus d'indications sur ce plan RC Forward le 25 novembre prochain. Alors, quelques petits mots rapidement des analystes.
Oui.
Alors, on a Citi qui trouve les propos du directeur général plutôt encourageants. Ah. UBS trouve audacieux ce plan-là. Et bien sûr, il y en a un qui trouble un peu, qui joue un peu les troubles faits. Il faut quand même le souligner. Ben, c'est Barclays qui craint que le groupe fasse face à des risques d'exécution élevés dans ses marchés clés.
Voilà, Rémy Cointreau gagne quand même 11% aujourd'hui. Comme quoi, on peut progresser encore comme en 2026, quoi. Même sans IA. Il n'y a pas d'IA dans le cognac, il n'y en aura toujours pas, ce n'est pas prévu.
Non, mais dans le mot Cointreau, il y a un I et un A.
Voilà.
Ah oui, ça doit être ça.
Oui, bravo.
Il en faut peu pour être heureux. Bon, cet article sur bfmbourse.com, vous pouvez bien sûr le retrouver. Rémy Cointreau, star du jour dans un marché qui est en hausse. Le CAC 40 gagne 0,9%. La BCE, dans une semaine, devrait relever ses taux. On en parlait avec Gilles Mouek et il nous a dit tout le mal qu'il pense d'une hausse de taux à venir de la Banque Centrale Européenne. Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA, très écouté dans les milieux financiers et économiques. Il est avec nous chaque jeudi. Vous pouvez réécouter son intervention dans l'écho du monde. C'est le nom de sa séquence qui est en ligne. Ça y est, disponible en replay sur l'application BFM Business. Romain, on vous retrouve à nouveau. Vous nous parliez de Rémy Cointreau. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs comme ça ou d'autres actifs qui sont en train de dégager, d'ouvrir un nouveau potentiel pour la suite?
Si.
Bonsoir. Alors, on a peut-être un problème de liaison. Romain, nous entendez-vous?
Oui, ça y est, je vous entends, Guillaume.
Formidable. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous détectez, identifiez des actifs ou d'autres valeurs qui sont en train d'ouvrir un nouveau potentiel pour la suite? On parlait de Rémy Cointreau là, mais s'il y en a d'autres que vous identifiez?
Mais c'est en devenir pour pas mal de titres, effectivement. On voit des réactions qui sont intéressantes depuis quelques séances maintenant sur des titres, on l'a évoqué, comme Capgemini, qui est toujours bloqué, coiffé par une résistance entre 108 et 110, mais qui, au débordement de ce niveau-là, pourrait aller chercher des niveaux aux alentours de 127, 133, donc des niveaux de réactivation haussiers de long terme. On voit un comportement intéressant aussi sur Téléperformance depuis quelques séances. On a vu, pour les plus petites capitalisations, un très gros parcours haussier récent pour OVH, par exemple, qui pourrait se poursuivre. On s'approche du cours d'introduction du titre à 18,50 qui date de 2021. Ça pourrait être des éléments intéressants. Il y a pas mal de configurations comme ça. On a toujours beaucoup de contre-pieds, beaucoup de volatilité, on le voit dans le marché. Donc on est peut-être en train de construire, mais on sent que les opérateurs y vont assez prudemment. En revanche, on pourrait avoir des mouvements un peu plus francs. On est un peu pénalisé par le luxe qui est un peu en stand-by aussi sur notre indice parisien.
Ouais.
Et parmi d'autres titres qui pourraient comme ça réactiver des éléments, oui, je parlais de Téléperformance qui sont pas mal. On a vu De Richbourg aussi, qui a une configuration graphique intéressante, qui est en train de mettre peut-être en place une réactivation haussière de très long terme avec un potentiel intéressant. Donc il y a quelques titres comme ça, plutôt du stock picking. On n'a pas une grosse harmonie sur les indices et au sein des indices encore pour l'instant, mais il y a un peu de mieux effectivement. On a vu Valeo qu'on a évoqué ensemble hier, qui voilà, sur fond d'annonces autour de l'IA, donne un potentiel aussi qui peut être encore significatif, une recovery qui pourrait être assez légitime compte tenu de la baisse et la sous-valorisation du titre.
Et vous faites bien d'en parler, hein, Valeo qui a gagné hier 18% sur l'idée que Valeo pourrait être un gagnant de l'IA. C'est l'objet de notre question du jour sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Romain de nous avoir accompagné. On vous retrouvera à la clôture. Oui, sur les réseaux,
Guillaume.
Merci à vous. On peut voter. Chaque jour, vous pouvez voter et nous laisser vos arguments en commentaire. La question du jour qu'on vous pose, elle est toujours ouverte. Hein. Vous pouvez continuer de participer et voter. Valeo hier s'est envolé. À votre avis, quel secteur inattendu l'IA sauvera-t-elle en bourse? On a vu hier d'un coup Valeo progresser de 18% comme ça, sur l'idée que Valeo allait être un grand gagnant de l'IA. Quel autre secteur, quelle autre valeur? On pense aux banques, on pense pourquoi pas à l'automobile, la santé, on la voit pas forcément dans l'IA, ben si, pourquoi pas. La beauté aussi, quel secteur profitera le plus de l'IA? L'IA sauvera-t-elle?
Alors moi je dirais la beauté, parce que c'est vrai que c'est difficile avec le temps, l'âge aidant, de trouver une routine beauté pour sa peau, pour ses cheveux, etc. Et c'est vrai que la beauté personnalisée, eh bien avec l'IA, vous pouvez être aidé pour cette recherche-là, parce que bon, le nombre de produits disponibles est tellement énorme que de trouver sa routine parfaite, hein, c'est vraiment difficile. Alors, on a L'Oréal qui vraiment s'est inscrit dans ce chemin de l'IA et qui propose depuis au moins 2018 beaucoup de technologies. Par exemple, aux États-Unis, j'ai vu ça, en fait, ils ont un chatbot vous lui demandez des questions. Voilà, j'ai besoin de ma routine pour voilà, j'ai telle problématique pour mes cheveux, j'ai telle problématique pour ma peau. Eh bien, ce chatbot vous aide et vous aiguille sur la routine à adopter, les produits à adopter pour répondre à votre problème de peau ou de cheveux.
C'est très sérieux. Ouais.
C'est vraiment très sérieux. Oui, oui.
Mise vraiment sur l'IA pour la beauté personnalisée.
C'est ça.
Voilà. Quel secteur inattendu l'IA sauvera-t-elle en bourse? On a vu hier Valeo s'envoler d'un seul coup, Antoine.
Je vais procéder par élimination. La beauté, je ne vais pas en parler parce que c'était ton secteur à toi. Les banques, à mon avis, c'est un leurre total. La banque gagnera pas en productivité et en valeur grâce à l'IA, parce que si les gens font appel à une banque, c'est précisément parce qu'ils ont besoin d'humains. Donc, ok, les Revolut, les natifs numériques, eux, profiteront de l'IA, il n'y a pas de souci. Les banques, ça m'étonnerait, honnêtement. L'automobile, c'est pas parce qu'on va avoir de l'IA à l'intérieur de la voiture que ça va donner plus envie. C'est toujours la marque et le design qui sont 90% de l'intention d'achat d'une voiture.
Ouais.
À mon avis, ça changera pas.
Mais par exemple, les équipementiers, on entend beaucoup parler des constructeurs auto qui pourraient se reconvertir dans la défense pour, comme ça, trouver un relais de croissance. Les équipementiers pourraient participer à refroidir les data centers. Ce sera un relais de croissance aussi. C'est ce qui a fait monter Valeo hier. Non, t'y crois pas trop, toi, Antoine.
Mais je veux dire, à ce moment-là, on peut prendre n'importe quel élément d'une voiture et dire qu'il peut être utile à l'IA. Ne serait-ce que de fournir des données, tiens, par exemple. Et ça, c'est un enjeu pour les constructeurs. Mais en termes d'activité, de vente des voitures, par exemple, c'est pas parce qu'il y a l'IA à l'intérieur, et on voit beaucoup de pubs, d'ailleurs, et de marketing autour de « Oh, il y a Anthropic dans la voiture, oh, il y a Claude ». C'est pas ça qui va donner plus envie d'une voiture que d'une autre. Honnêtement, on l'a cru avec Google CarPlay, avec Apple. Non. On a toujours envie d'une voiture parce que c'est telle ou telle voiture.
Ouais, mais par exemple, un constructeur de voiture pourrait participer à construire des robots humanoïdes. C'est un peu, robots humanoïdes, c'est un peu de la science-fiction, mais pas tant que ça. En Chine, ils sont très avancés et Tesla mise justement sur une conversion de certaines usines pour fabriquer plutôt que des voitures. Vous me regardez avec un air chelou, Sabrina, mais c'est vrai. Il y a une usine de Tesla, je crois que c'est au Texas, Antoine, je sais plus dans quel état, qui désormais sera consacrée non plus à fabriquer des voitures, mais des robots humanoïdes, parce que les techniques sont relativement similaires.
Mais je pense déjà que, alors Tesla est un digital natif aussi, et il a tout intérêt à lancer des business parallèles à la vente de voitures, parce que même si les chiffres sont un peu volatiles, ils sont plutôt favorables en ce moment. Tesla, ça reste quand même un business résiduel pour Elon Musk. En revanche, la confrontation avec l'Europe est un petit peu cruelle, dans le sens où on a des usines en ce moment où on peine à produire des voitures. Donc c'est pas parce qu'on aura des robots et qu'on les construira plus vite. Alors peut-être que du coup les coûts descendront suffisamment pour faire repartir le marché. J'en doute, ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années. D'ici là, l'écosystème, il aura radicalement changé.
Okay.
Mais voilà, par élimination, je dirais plutôt la santé, où l'IA, là, clairement, de l'avis de tous les scientifiques, aide à la manipulation de masses de données qui permettent de raccourcir les
essais cliniques.
Les essais cliniques et les tests, etc. Donc là, pour le coup, il y a quelque chose d'immédiat qui pourrait être bénéfique.
Et pour appuyer les propos d'Antoine, j'ai une petite entreprise qui est cotée à Paris qui s'appelle Médian Technologies. Et en fait,
on en a parlé de Médian.
Ah bon? Ouais. Et bah voilà,
on avait une question d'auditeur.
Et bah, écoutez, ils sont là-dessus. Ils sont sur ce créneau-là.
Non, mais et Médian, c'est une belle boîte.
Ah non, c'est une super boîte. Hein. Oui. Et du coup, eux, en fait, ils analysent les images par l'intelligence artificielle. Ils permettent de détecter. Et là, ils sont sur le cancer du poumon. Donc là, ils ont commencé la commercialisation de ce logiciel aux États-Unis. Là, ils ont levé des fonds pour accélérer et aussi pour accélérer en Europe sur ce logiciel. Et donc, son patron vient demain matin.
Et notre auditeur sur BFM Business, donc demain matin, le patron de Médian. Et cet auditeur qui nous a écrit sur Médian s'appelle, vous n'allez pas le croire, je sais que vous êtes fan de chat, Sabrina, il s'appelle, c'est son pseudo sur le Félix BFM Bourse, le chat en bourse.
Incroyable.
Alors du coup, c'est pas vous qui avez écrit cette question, c'est pas votre pseudo, c'est pas votre deuxième compte. C'est incroyable. Non. Bon voilà, il voulait qu'on parle de Médian, il nous a reproché d'ailleurs de pas en avoir assez parlé hier. On essaie de se rattraper aujourd'hui. Tout à l'heure, on était avec Olivier Droyer et il croit lui aussi fermement dans le potentiel de ce groupe.
Parce qu'il y a
de
nouvelles indications d'oncologie aussi, hein, si une fois qu'Evonis est assez et utilisé dans les milieux hospitaliers, etc. Et ben là, sur les autres indications d'oncologie, ça peut le faire.
Donc pour Antoine et un peu pour vous, Sabrina aussi, c'est le secteur de la santé qui bénéficiera de l'IA en dehors de la tech pure. Hein. Quel secteur l'IA sauvera-t-elle, d'après vous, en bourse? Antoine vote pour la santé, vous pour la beauté ou la santé, Sabrina?
Un peu les deux.
Ouais. Et majorité d'entre vous qui me suivez, vous votez santé à 56% devant les banques à 26%. Vous n'êtes que 26% à penser que l'IA sauvera les banques en bourse et que 11% à penser que l'IA sauvera l'automobile. Voilà. Et seulement 7% à penser que l'IA sauvera la beauté.
Oui, parce que le lien n'est pas forcément super intuitif.
Oui, On verra si les votes évoluent avec les arguments que vous nous avez apportés il y a un instant.
J'ai essayé, en tout cas.
Effectivement. Bon, le CAC est en hausse de 0,8%. C'est intéressant de voir que nos marchés en Europe sont pas très loin, eux non plus, de leur record historique. Signe de bonne santé, d'ailleurs, aussi de nos entreprises. Le chiffre du jour va nous en convaincre. La bonne santé des entreprises européennes et françaises, même si c'est pas un chiffre absolument parfait, mais quand même, il est plutôt positif. Sébastien Barthélémy vient nous le livrer. Bonjour, Sébastien.
Bonjour.
Responsable de la recherche crédit chez Kepler Cheuvreux, ce chiffre, c'est 39 milliards et demi d'euros. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce chiffre?
Eh bien, c'est le montant levé cette semaine, jusqu'à hier, mercredi, sur le marché primaire du crédit européen. Et cela nous indique que le marché du crédit reste très ouvert, malgré un environnement qui n'est pas particulièrement simple, vous le savez, je vous en parle souvent à l'antenne, du marché primaire. Pourquoi? Parce que ça mesure la confiance, l'appétit des investisseurs. Donc, c'est pas seulement un chiffre de volume, c'est surtout un signal de profondeur de marché. Alors, moi, je vois trois choses. D'abord, les investisseurs continuent d'absorber beaucoup de papiers obligataires. Ensuite, les émetteurs n'ont pas attendu, ils accélèrent. On sait qu'il y a un jour férié aujourd'hui en Autriche, en Pologne. Donc, ça ralentit un petit peu. Donc, ils ont accéléré en ce début de semaine, si je ne me trompe pas. Et enfin, les carnets, ce qu'on appelle les carnets d'ordre, restent de très bonne qualité. On voit que, selon Bloomberg, eh bien, on a ce qu'on appelle le resserrement de spread entre les spreads annoncés avant l'émission et après l'émission. Mais on est sur un resserrement moyen de près de 22 points de base. Eh bien, ça démontre que la demande reste suffisante pour permettre aux émetteurs de réduire la prime qui est offerte.
Alors Sébastien, ça veut dire que les investisseurs ne voient vraiment plus de risques ?
Non, ça serait une lecture trop rapide. Les investisseurs ne nient pas le risque. Je pense qu'ils continuent d'acheter parce que le prix est jugé acceptable. Et on a des indices de crédit obligataire qui le montrent assez bien. Par exemple, je vous parle souvent de l'ITRAX Main, qui est pour les émetteurs investment grade ou de bonne qualité. On est actuellement à 54 points de base. Le crossover pour les émetteurs de moins bonne qualité, qu'on appelle le high yield, on est à 262 points de base. Et par rapport au pic récent de début avril, bon, ça s'est resserré, on était à 335 pour le crossover, 74 pour le main, donc le stress est bien résorbé, mais on ne va pas trop loin dans l'optimisme parce qu'on est encore plus large que les niveaux de début d'année.
Bon, et de manière générale, sur le crédit européen en termes de rendement, ça a tendance à se tendre depuis janvier.
Oui, c'est vrai, on retrouve cette même tendance que sur le spread, les rendements restent, se sont resserrés. Donc, par rapport au conflit en Iran et au stress, on a de la détente depuis début avril, mais on reste quand même plus élevé qu'en début d'année. Pour vous donner également quelques chiffres, pour vous donner un petit peu de niveau, le high yield hors financière, on est à 5,2%. On était début avril à 5,9%. Pour les cocos, les AT1, vous savez que ce sont les obligations les plus risquées, eh bien, on était à 5,7%, on est passé à 5,2%, mais on est encore au-dessus que depuis le début de l'année. Donc, le message est, on a encore le marché du crédit offre encore du rendement. Une partie du rallye depuis le stress d'avril a été faite, mais pas la totalité.
Merci beaucoup, Sébastien. Non, quand même, une dernière question, Sébastien. Qu'est-ce qui domine ce marché obligataire, là, ce marché du crédit des entreprises en ce moment? Plutôt les fondamentaux ou la technique?
Eh bien, à court terme, c'est la technique qui domine. On a une offre qui est abondante, ça passe bien, les carnets sont là, les primes se resserrent, les émetteurs profitent de la fenêtre. On voit des signatures très différentes. On passe du souverain ou des agencies à des obligations sécurisées, mais on a également des tiers d'assurance, tiers de bancaire, senior bancaire, hybride corporate. Donc, ça se limite pas à un seul secteur, à une seule catégorie, la demande est large. Mais le point contradictoire, c'est le suivant, c'est que cette bonne technique peut toujours, selon la grille de lecture, masquer une certaine fragilité, parce que si la macro dévie, si les taux remontent, si le risque géopolitique repart de plus belle, eh ben ça se transmettra au prix de l'énergie et les spreads peuvent rapidement redevenir plus volatiles. Pour l'instant, le marché digère très bien l'offre, mais il le fait parce que les flux sont favorables, mais les risques n'ont pas disparu.
Merci Sébastien Barthélémy, hyper complet, précis là, sur vraiment l'état de santé des entreprises, mais on les prend vraiment par l'intérieur, là, par la moelle épinière. On mesure vraiment leur état par les sous-jacents qu'on n'a pas regardé. L'écume, c'est le marché action, et puis là, le marché obligataire, le marché du crédit, on est dans les profondeurs et les entrailles. Merci de nous avoir accompagnés, Sébastien, aujourd'hui. Le CAC gagne 0,8%, Wall Street est stable. On a tort d'y croire. Les plafonds, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a souvent des plafonds sur les marchés et c'est justement ce dont on va vous parler. Parce que sur les réseaux sociaux, l'un d'entre vous a publié un post à haute valeur ajoutée. Vous savez qu'on vous challenge chaque jour, on vous suit sur les réseaux. Et la rédaction de BFM Bourse récompense chaque jour un champion. Aujourd'hui, c'est Walter qui nous dit « Yardeni Research, le prévisionniste de Wall Street le plus optimiste, avec un objectif sur le S&P 8250 points. » Eh bien, Yardeni Research, finalement, abaisse son objectif sur Wall Street parce que pour Yardeni, qui pourtant d'habitude est plus optimiste, ça va trop vite, là, Sabrina.
Bah oui, il vise 7600. Et bon, en tout cas, malgré le... Enfin, plutôt, il est plutôt... bearish sur le S&P. Pourquoi? Parce que
avec ce qui est dingue, normalement, c'est plus optimiste.
C'est plus optimisme, ouais. En fait, si vous voulez, avec toutes les intros en bourse qui vont venir, le Moyen-Orient, c'est pas encore fait hein, sur ce point-là, et avec les grosses intros en bourse, avec SpaceX, avec Anthropic à venir,
plus la Fed qui pourrait ne pas baisser ses taux.
Exactement. Donc ça va créer énormément de volatilité, beaucoup de volatilité, surtout avec les grosses IPO à venir. C'est pour ça qu'il est même le plus optimiste et plutôt prudent.
Yardeni Research, le prévisionniste le plus optimiste de Wall Street, abaisse son objectif sur le S&P. Mesdames, messieurs, c'est à noter.
Souvenez-vous des commentaires de David Solomon de Goldman Sachs qu'on a vu hier du côté de CNBC, qui disait on est en période de greed, d'avidité intense. Et ça, c'est jamais un très très bon signe. Ça veut dire que le marché, s'il se retourne un tout petit peu, peut provoquer une avalanche baissière. Et on a vu que tout l'écosystème IA, en particulier un certain nombre de catalyseurs de marché, sont toujours dynamiques. Si ça veut bien se poursuivre, le jour où ça ne se poursuit pas et qu'il y a un grain de sable dans l'engrenage,
On voit la réaction avec Broadcom aujourd'hui, hein, c'est moins 14, alors que
80 de PE, Broadcom, on peut exiger n'importe quoi d'une boîte qui est cotée à 80 de PE.
Broadcom perd 15% quasiment effectivement cet après-midi, alors que la publication est top, les prévisions sont extraordinaires, mais le marché ne veut plus de l'extraordinaire, il veut de l'hallucinant, du hallucinant. Exactement. On dit quoi? On dit de l'hallucinant ou du hallucinant? Il veut
de l'hallucinant.
Dans un instant.
De l'extraordinaire.
Oui, merci. Oui,
vous
c'est
en
mieux.
Prie. Toujours un plaisir.
Quand il n'y a pas de H, c'est souvent plus simple. Alors, on dit quoi d'ailleurs? On peut ouvrir le sondage aussi. Il faut dire, il veut du hallucinant ou de l'hallucinant? La question est ouverte. On va essayer d'y répondre dans un instant avec nos experts du club. Juste avant, un dernier mot sur cet article consacré à Lexibook aussi. C'est une valeur à suivre aujourd'hui à Paris. Sabrina, il gagne 36% ce type Lexibook.
36% parce que son actionnaire de contrôle va mener plusieurs opérations. Bon, le but, en gros, c'est de retirer Lexibook de la cote.
Oui. Ah oui, tout simplement.
Ouais, j'essaie de faire simple.
Le titre s'aligne, du coup, plus 36. Voilà. Article détaillé à retrouver sur notre site. Merci Sabrina. Dans un instant, la dernière ligne droite de cette séance, on va la vivre ensemble avec Antoine. On essaiera de comprendre pourquoi le CAC, pour une fois, fait mieux que tout le monde aujourd'hui. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.